Jules Verne, Aventure de la famille Raton. Fichier 2. C'était l'une des plus élégantes maisons de Ratopolis. Un magnifique fromage de Hollande qu'habitait la famille Raton. Le salon, la salle à manger, les chambres à coucher, toutes les pièces nécessaires au service étaient distribuées avec goût et confort. C'est que Raton et les siens comptaient parmi les notables de la ville et jouissaient de l'estime universelle. Ce retour à son ancienne situation n'avait point enflé le cœur de ce digne philosophe. Ce qu'il avait été, il ne devait pas cesser de l'être, modeste dans ses ambitions, un vrai sage dont La Fontaine eût fait le président de son conseil des rats. On se fût toujours bien trouvé de suivre ses avis. Seulement, il était devenu goutteux et marchait avec une béquille, lorsque la goutte ne le retenait pas dans son grand fauteuil. Il attribuait cela à l'humidité du banc de Saint-Maubrive où il avait végété plusieurs mois. Bien qu'il eût été aux eaux réputées les meilleures, il en était revenu plus goutteux qu'avant. Cela était d'autant plus fâcheux pour lui que, phénomène très bizarre, cette goutte le rendait impropre à toute métamorphose ultérieure. En effet, l'âme étant psychose, ne pouvait s'exercer sur les individus atteints de cette maladie des riches. Raton resterait donc rat tant qu'il serait goutteux. Mais Ratonne, elle, n'était pas philosophe. Voyez-vous sa situation, alors que, promue dame et grande dame, elle aurait pour mari un simple rat, et un rat goûteux encore. Cela serait à mourir de honte. Aussi était-elle plus acariâtre, plus irritable que jamais, cherchant noise à son époux, gourmandant ses servantes à propos d'ordres mal exécutés parce qu'ils étaient mal donnés, faisant la vie dure à toute la maison. Il faudra pourtant vous guérir, monsieur, disait-elle, et je saurai bien vous y contraindre. Je ne demanderai pas mieux, ma bonne, répondait Raton, mais je crains que ce ne soit impossible, et je devrais me résigner à rester rat. Rat ? Moi, la femme d'un rat ? Et de quoi aurais-je l'air ? Et ne voilà-t-il pas d'autre part notre fille amoureuse d'un garçon qui n'a pas le sou? Quelle honte! Supposez que je sois princesse un jour. Ratine sera princesse aussi. C'est donc que je serai prince, répliqua Raton, non sans une pointe de malice. Vous, prince, avec une queue et des pattes, voyez-vous le beau seigneur? C'est ainsi que toute la journée, on entendait geindre Dame Ratonne. Le plus souvent, elle essayait de passer sa mauvaise humeur sur le cousin raté. Il est vrai que le pauvre cousin ne cessait de prêter à la plaisanterie. Cette fois encore, la métamorphose n'avait pas été complète. Il n'était rat qu'à moitié, rat par devant mais poisson par derrière, avec une queue de merlan, ce qui le rendait absolument grotesque. Dans ces conditions, allez donc plaire à la belle Ratine ou même aux jolies autres rates de Ratopolis. Mais qu'ai-je donc fait à la nature pour qu'elle me traite ainsi, s'écriait-il. Qu'ai-je donc fait? Veux-tu bien cacher cette vilaine queue, disait Dame Ratonne. Je ne peux pas, ma tante, Eh bien, coupe-la, imbécile, coupe-la. Et le cuisinier Rata offrait de procéder à cette section, puis d'accommoder cette queue de merlan d'une façon supérieure. Quel régal c'eût été pour un jour de fête tel que celui-ci.
Jour de fête à Ratopolis?
Oui, mes chers enfants. Aussi, la famille Raton se proposait-elle de prendre part aux réjouissances publiques. Elle n'attendait plus pour partir que le retour de Ratine. En ce moment, un carrosse s'arrêta à la porte de la maison. C'était celui de la fée Firmenta, en costume de brocart et d'or, qui venait rendre visite à ses protégés. Si elle souriait parfois des ambitions risibles de Ratonne, des jactances ridicules de Rata, des bêtises de Ratane, des lamentations du cousin raté, elle faisait grand cas du bon sens de Raton. Elle adorait la charmante Ratine et s'employait au succès de son mariage. Et en sa présence, Dame Ratonne n'osait plus reprocher au beau jeune homme de ne pas même être prince. On fit donc bon accueil à la fée, sans lui ménager les remerciements pour tout ce qu'elle avait fait et ferait encore.
« Car nous avons bien besoin de vous, madame la fée, » dit Ratonne.
« Ah, quand serai-je dame ?»«
Patience, patience, » répondit Firmenta. « Il faut laisser opérer la nature, et cela demande un certain temps. »
« Mais pourquoi veut-elle que j'aie une queue de merlan, quoique je sois redevenue rat ?» s'écria le cousin en faisant une mine pitoyable. « Madame la fée, ne pourrait-on m'en débarrasser ?»«
Hélas non, » répondit Firmenta, « et vraiment vous n'avez pas de chance. C'est votre nom de raté qui veut cela, probablement. »
« Espérons cependant que vous n'aurez point une queue de rat quand vous deviendrez oiseau. »
Oh, s'écria Dame Ratonne, que je voudrais donc être une reine de volière.
Et moi, une belle grosse dinde truffée, dit naïvement la bonne Ratane.
Et moi, un roi de basse-cour, ajouta Rata.
Vous serez ce que vous serez, riposta le père Raton. Quant à moi, je suis rat, et le resterai grâce à ma goutte. Et mieux vaut l'être, après tout, que de se retrousser les plumes, comme bien des oiseaux de ma connaissance. En ce moment, la porte s'ouvrit. Le jeune ratin parut, pâle, défait. En quelques mots, il eut raconté l'histoire de la ratière et comment Ratine était tombée dans le piège du perfide garde-à-four.
« Ah, c'est ainsi, répondit la fée. Tu veux lutter encore, maudit enchanteur. Soit, à nous deux.
Oui, mes chers enfants, tout Ratopolis est en fête, et cela vous eût bien amusé si vos parents avaient pu vous y conduire. Jugez donc. Partout, de larges arceaux avec des transparents de mille couleurs, des arcs de feuillage au-dessus des rues pavoisées, des maisons tendues de tapisseries, des pièces d'artifice se croisant dans les airs, de la musique à chaque coin de carrefour, et, je vous prie de le croire, les rats en montreraient aux meilleurs orphéons du monde.
Ils ont de petites voix, douces, douces, des voix de flûte, d'un charme inexprimable.
Et, comme ils interprètent les œuvres de leurs compositeurs, les Rassini, les Ragner, les Rassenet et tant d'autres maîtres. Mais ce qui eût excité votre admiration, c'est un cortège de tous les rats de l'univers et de tous ceux qui, sans être rats, ont mérité ce nom significatif. On y voit des rats qui ressemblent à Harpagon, portant sous la patte leur précieuse cassette d'avare, des rats à poils, vieux grognards, dont la guerre a fait des héros, toujours prêts à égorger le genre humain pour conquérir un galon de plus. Des rats à trompe, avec une vraie queue sur le nez, comme en fabriquent ces farceurs de zouaves africains. Des rats d'église, humbles et modestes. Des rats de cave, habitués à fourrer leur museau dans la marchandise pour le compte des gouvernements. Et surtout, des quantités fabuleuses de ces gentils rats de la danse qui exécutent les passes et contrepasses d'un ballet d'opéra. C'est au milieu de ce concours de beau monde que s'avançait la famille Raton, conduite par la fée. Mais elle ne voyait rien de cet éblouissant spectacle. Elle ne songeait qu'à Ratine, la pauvre Ratine, enlevée à l'amour de ses pères et mères, comme à l'amour de son fiancé. On arriva ainsi sur la grande place. Si la ratière était toujours sous le berceau, Ratine ne s'y trouvait plus. « Rendez-moi ma fille !» s'écria Dame Raton, dont toute l'ambition n'allait plus qu'à retrouver son enfant, et cela faisait réellement pitié de l'entendre. La fée essayait en vain de dissimuler sa colère contre Gardafour. On le voyait à ses lèvres pincées, à ses yeux qui avaient perdu leur douceur habituelle. Un grand brouhaha s'éleva alors au fond de la place. C'était un cortège de princes, de ducs, de marquis. Enfin, des plus magnifiques seigneurs, en costumes superbes, précédés de gardes armés de toutes pièces. En tête du principal groupe se détachait le prince qui s'adore, distribuant des sourires, des saluts protecteurs à toutes ces petites gens qui lui faisaient la cour. Puis, en arrière, au milieu des serviteurs, se traînait une pauvre et jolie rate. C'était Ratine, si surveillée, si entourée qu'elle ne pouvait songer à fuir. Ses doux yeux pleins de larmes en disaient plus que je ne saurais vous en dire. Gardafour, marchant près d'elle, ne la quittait pas du regard. « Ah ! Il la tenait bien cette fois.
Ratine, ma fille! Ratine, ma fiancée! S'écrièrent Raton et Ratin, qui essayèrent vainement d'arriver jusqu'à elle.
Il fallait voir les ricanements dont le prince Kissador saluait la famille Raton, et quel coup d'œil provocateur Gardafour lançait à la fée Firmenta. Bien qu'il fût privé de son pouvoir de génie, il avait triomphé rien qu'en employant une simple ratière. Et en même temps, les seigneurs complimentaient le prince sur sa conquête. Avec quelle fatuité le sot recevait ses compliments. Soudain, la fée étend le bras, agite sa baguette, et aussitôt s'opère une nouvelle métamorphose. Si le père Raton restera, voilà Dame Raton changée en perruche, Rata en paon, Ratane en noix, et le cousin Raté en héron. Mais toujours sa mauvaise chance, et au lieu d'une belle queue d'oiseau, c'est une maigre queue de rat qui frétille sous son plumage. Au même moment, une colombe s'enlève légèrement du groupe des seigneurs. C'est Ratine, que l'on juge de l'hébétement du prince qui s'adore, de la colère de Gardafour. Et les voilà tous, courtisans et serviteurs, à la poursuite de Ratine qui s'enfuit à tire-d'aile. Le décor a changé. Ce n'est plus la grande place de Ratopolis, c'est un paysage admirable, dans un cadre de grands arbres. Et des divers coins du ciel s'approchent 1000 oiseaux qui viennent faire accueil à leurs nouveaux frères aériens. Alors Dame Raton, fière de son plumage, heureuse de son caquetage, se livre aux ébats les plus gracieux, tandis que, toute honteuse, la bonne Ratane ne sait plus où cacher ses pattes d'oie. De son côté, Rata, dont Rata, s'il vous plaît, fait la roue, comme s'il avait été pan toute sa vie. Tandis que le pauvre cousin murmure à voix basse, raté encore, raté, toujours. Mais voici qu'une colombe traverse l'espace en poussant de petits cris joyeux, décrit des courbes élégantes et vient se poser légèrement sur l'épaule du beau jeune homme. C'est la charmante Ratine, et on peut l'entendre qui murmure à l'oreille de son fiancé en battant de l'aile.
« Je t'aime, mon Ratin, je t'aime !»
Où sommes-nous, mes chers enfants? Toujours dans un de ces pays que je ne connais pas, dont je ne pourrais dire le nom. Mais celui-ci, avec ses vastes paysages encadrés d'arbres de la zone tropicale, ses temples qui se découpent un peu crûment sur un ciel très bleu, il ressemble à l'Inde et ses habitants à des hindous. Entrons dans ce caravansérail, une sorte d'immense auberge ouverte à tout venant. C'est là qu'est réunie la famille Raton au complet. Suivant le conseil de la fée Firmenta, elle s'est mise en voyage. Le plus sûr, c'était de quitter Ratopolis pour échapper aux vengeances du prince, tant que l'on ne serait pas assez fort pour se défendre. Raton, Ratan, Rati, Rata et Raté ne sont encore que de simples volatiles. Qu'ils deviennent des fauves, et il ne sera plus si facile d'en avoir raison. Oui, de simples volatiles, parmi lesquels Ratan a été une des moins favorisées. Aussi se promène-t-elle seule dans la cour du caravansérail. « Hélas, hélas !» s'écrie-t-elle, après avoir été une truite élégante, une rate qui a su plaire, être devenue une oie domestique, une de ces oies de basse-cour que n'importe quel cuisinier peut farcir de marrons. Et elle soupirait à cette idée, ajoutant, « Qui sait même si mon mari n'aura pas la pensée de le faire ?» C'est qu'il me dédaigne à présent. Comment voulez-vous qu'un paon si majestueux ait la moindre considération pour une oie si vulgaire, si encore j'étais d'Inde? Mais non. Et Rata ne me trouve plus à son goût. Et cela ne parut que trop lorsque le vaniteux Rata entra dans la cour. Mais aussi, quel beau paon! Il agite sa légère et mobile aigrette peinte des plus brillantes couleurs. Il hérisse son plumage qui semble brodé de fleurs et chargé de pierres précieuses. Il déploie largement le superbe éventail de ses plumes et les barbes soyeuses qui recouvrent ses pennes caudales. Comment cet admirable oiseau pourrait-il s'abaisser jusqu'à ses toits si peu attrayante, sous son duvet gris cendré et son manteau brun. « Mon cher Rata, dit-elle. « Qui ose prononcer mon nom ? Réplique le paon.
« Moi.
« Une oie. Quelle est cette oie ?
Je suis votre Ratane.
« Ah, fi, quelle horreur ! Passez chemin, je vous prie. » Vraiment, la vanité fait dire des sottises. C'est que l'exemple lui venait de haut à cet orgueilleux. Est-ce que sa maîtresse Ratonne montrait plus de bon sens? Est-ce qu'elle ne traitait pas aussi dédaigneusement son époux? Et précisément, la voilà qui fait son entrée, accompagnée de son mari, de sa fille, de Ratin et du cousin Raté. Ratine est ravissante en colombe, avec son plumage cendré, bleuâtre, le dessous de son cou, vert doré, à nuances changeantes,
sa poitrine d'un roux vénitien, et la délicate tache blanche qui la marque à chaque aile. Aussi, comme Ratin la dévore des yeux. Et quel mélodieux ronron elle fait entendre en voletant autour du beau jeune homme. Le père Ratan, appuyé sur sa béquille, regardait sa fille avec admiration, comme il la trouvait belle. Mais ce qui est certain, c'est que Dame Ratan se trouvait plus belle encore. Ah, que la nature avait bien fait de la métamorphoser en perruche. Elle bavardait, elle bavardait. Elle étageait sa queue à rendre jaloux Don Ratan lui-même. Si vous l'aviez vue quand elle se plaçait dans un rayon du soleil pour faire miroiter le duvet jaune de son cou, lorsqu'elle agitait ses plumes vertes et ses rémiges bleuâtres, c'était en vérité un des plus admirables spécimens des perruches de l'Orient. Eh bien, es-tu contente de ta destinée, Bobonne ? Lui demandera-t-on. Il n'y a plus ici de Bobonne, répondit-elle d'un ton sec. Je vous prie de mesurer vos expressions et de ne pas oublier la distance qui nous sépare maintenant.
Moi ? Ton mari ?
Un rat, le mari d'une perruche ? Vous êtes fou, mon cher. Et Dame Ratan de se rengorger, tandis que Ratan se pavanait près d'elle. Ratan fit un petit signe d'amitié à sa servante, qui n'avait point démérité à ses yeux. Puis il se dit « Ah, les femmes, les femmes! Les voyez-vous lorsque la vanité leur tourne la tête ? Et même quand elle ne la leur tourne pas. Mais soyons philosophes. » Et pendant cette scène de famille, que devenait le cousin raté, avec cet appendice qui n'appartient même pas à son espèce ? Après avoir été rat avec une queue de merlan, être héron avec une queue de rat. Si cela continuait de la sorte, à mesure qu'il s'élèverait dans l'échelle des êtres, ce serait déplorable. Aussi demeurait-il là, dans un coin de la cour, perché sur une patte ainsi que le font les hérons pensifs, montrant le devant de son corps, dont la blancheur se relevait de petites lames noires, son plumage cendré, et sa huppe, mélancoliquement rabattue en arrière. Il fut alors question de continuer le voyage afin d'admirer le pays dans toute sa beauté. Mais Dame Ratan n'admirait qu'elle, et Don Ratan n'admirait que lui. Ni l'un ni l'autre ne regardait ces incomparables paysages, leur préférant villes et bourgades afin d'y déployer leur grâce. Enfin, on discutait là-dessus lorsqu'un nouveau personnage parut à la porte du caravansérail. C'était un de ces guides du pays, vêtu à la mode hindoue, qui venait offrir ses services aux voyageurs. « Mon ami, lui demanda Ratan, qu'y a-t-il de curieux à voir ?
Une merveille sans égale, répondit le guide, c'est le grand sphinx du désert.
« Du désert ? » fit dédaigneusement Dame Ratan. « Nous ne sommes point venus pour visiter un désert, » ajouta Don Ratan.
« Oh, répondit le guide, un désert qui n'en sera plus un aujourd'hui, car c'est la fête du sphinx et l'on vient l'adorer de tous les coins du monde. » Cela était bien pour engager nos vaniteux volatiles à lui rendre visite. Peu importait d'ailleurs à Ratine et à son fiancé en quel endroit on les conduirait, pourvu qu'ils y allassent ensemble. Quant au cousin Raté et à la bonne Ratan, c'est précisément au fond d'un désert qu'ils eussent voulu se réfugier.
« En route, » dit Dame Ratan.
« En route, » répondit le guide. Un instant après, tous avaient quitté le caravansérail, sans se douter que ce guide fut l'enchanteur Gardafour, méconnaissable sous son déguisement, et qui les attirait dans un nouveau piège. Quel superbe sphinx, infiniment plus beau que ces sphinx d'Égypte, si célèbres pourtant. Celui-là s'appelait le sphinx de Romiradour, et c'était la 8e merveille de l'univers. La famille Raton venait d'arriver à la lisière d'une vaste plaine, entourée de forêts épaisses, que dominait en arrière une chaîne de montagnes revêtue de neiges éternelles. Au milieu de cette plaine, figurez-vous un animal, taillé dans le marbre. Il est couché sur l'herbe, la face droite, les pattes de devant croisées l'une sur l'autre, le corps allongé comme une colline. Il mesure au moins 500 pieds de longueur sur 100 de large, et sa tête s'élève à 90 pieds au-dessus du sol. Ce sphinx a bien l'air indéchiffrable qui distingue ses confrères. Jamais il n'a livré le secret qu'il garde depuis des milliers de siècles. Et cependant, son vaste cerveau est ouvert à quiconque veut le visiter. On y pénètre par une porte ménagée entre les pattes. Des escaliers intérieurs donnent accès à ses yeux, à ses oreilles, à son nez, à sa bouche, et jusque dans cette forêt de cheveux qui hérisse son crâne. Au surplus, pour bien vous rendre compte de l'énormité de ce monstre, sachez que 10 personnes tiendraient à l'aise dans l'orbite de ses yeux, 30 dans le pavillon de ses oreilles, 40 entre le cartilage de son nez, 60 dans sa bouche, où l'on pourrait donner un bal, et 100 dans sa chevelure touffue comme une forêt d'Amérique. Aussi, de partout où vient-on, non pas le consulter puisqu'il ne veut rien répondre, de peur de se tromper, mais le visiter, comme on fait de la statue de Saint-Charles dans une des îles du lac Majeur. On me permettra, mes chers enfants, de ne pas insister davantage sur la description de cette merveille qui fait honneur au génie de l'homme. Ni les pyramides d'Égypte, ni les jardins suspendus de Babylone, ni le colosse de Rhodes, ni le phare d'Alexandrie, ni la tour Eiffel ne peuvent lui être comparés. Lorsque les géographes seront enfin fixés sur le pays où se trouve le grand sphinx de Romiradour, je compte bien que vous irez lui rendre visite pendant vos vacances. Mais Gardafour le connaissait, lui, et c'est là qu'il conduisait la famille Raton. En lui disant qu'il y avait grand concours de populaires dans le pays, il l'avait indignement trompé. Voilà qui allait singulièrement contrarier le paon et la perruche. Du superbe sphinx, il ne se souciait guère. Comme vous le pensez, il y avait eu un plan arrêté entre l'enchanteur et le prince qui s'adore. Aussi, le prince était-il là, sur la lisière d'une forêt voisine, avec 100 de gardes. Dès que la famille Raton aurait pénétré dans le sphinx, on l'y prendrait comme en une ratière. 600 ne parvenaient pas à s'emparer de 5 oiseaux, d'un rat et d'un jeune amoureux, c'est que ceux-ci seraient protégés par quelque puissance surnaturelle. En les attendant, le prince allait et venait. Il donnait les signes de la plus vive impatience. Avoir été vaincu dans ses entreprises contre la belle Ratine. Ah, quelle vengeance il eût tiré de cette famille si Gardafour avait recouvré son pouvoir. mais l'enchanteur était encore réduit à l'impuissance pour quelques semaines. Enfin, cette fois, toutes les mesures avaient été si bien prises que vraisemblablement, ni Ratine ni les siens n'échapperaient aux machinations de leurs persécuteurs. En ce moment, Gardafour se montra en tête de la petite caravane, et le prince, entouré de ses gardes, se tint prêt à intervenir.